RDC, Radiodiffusion Charentaise. Vous êtes sur RDC avec Stéphane, RDC 93.4 et 92.5, ou bien sur le site www.radio-du6rdcfm.com. Il est l'heure de l'émission Donnez-nous vos notes. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Une note, des notes, donnez-nous vos notes. Des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes aujourd'hui sur les ondes de RDC, Radiodiffusion Charentaise, 93.4 et 92.5, sans oublier le site www.radio-du6rdcfm.com. Qui veut bien nous donner ses notes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Bernard et Mathieu de Thor. Oui, deux invités qui ont gentiment accepté de nous donner leurs notes, de nous donner leurs notes aujourd'hui, 22 février 2024, de nous offrir leurs notes. Auditrices, auditeurs, bonjour, bienvenue sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5 pour l'émission Donnez-nous vos notes que j'ai la joie d'animer depuis quelques mois déjà. Je ne doute pas que vous aurez plaisir à recevoir les notes que Bernard et Mathieu de Thor vont nous donner, nous offrir. Auditrices, auditeurs, je vais vous dire une fois encore combien je suis touché par les nombreux messages de satisfaction que vous adressez après chaque émission de la série « Donnez-nous vos notes » diffusée le quatrième jeudi du mois. Bonjour Bernard de Thor.
Bonjour.
Bonjour Mathieu de Thor.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonjour Jean-Marc, merci à toi aussi pour la technique que tu sais toujours déployer au bénéfice de toutes celles et de tous ceux qui sont à l'écoute. Et merci encore et également du soutien sans faille que tu apportes à l'animateur que je suis. Alors donc aujourd'hui, Bernard et Mathieu de Thor se prêtent au jeu. Ils vont nous dévoiler leur parcours, leur choix d'entrer dans l'univers de l'art, de la musique, pas seulement. Ils vont nous parler de leurs rencontres, de leurs envies culturelles, de leurs perspectives artistiques, musicales, et le tout sera sans doute teinté de l'expression d'un besoin de partage. Mathieu et Bernard vont nous dire comment ils vivent avec l'art et avec la musique, mais aussi comment l'art et la musique opèrent sur eux, sur leur personne, sur leur entourage, etc., etc. Bernard et Mathieu de Thor vont nous guider vers leur compréhension de l'art et de la musique, sans doute une compréhension qui permet l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, l'écoute des autres. Bernard, Mathieu, vous êtes prêts?
Oui.
Oui.
Alors Bernard de Thor, Mathieu de Thor, donnez-nous vos notes.
Il est l'heure de donner nouveaux notes avec Stéphane sur RDC.
Comme à l'accoutumée, c'est au travers d'une sélection d'écoutes que nos invités du jour vont nous donner leurs notes, nous offrir leurs notes. Certes, il leur a fallu choisir et donc forcément ne pas retenir toutes les œuvres qu'ils auraient pu nous faire entendre. Mais si choisir c'est renoncer, je pense que l'éventail sera assez large pour que nous puissions, auditrices et auditeurs, avoir une réelle connaissance de la richesse du parcours de Bernard de Thor et de Mathieu de Thor. Bernard, Mathieu, Mathieu, Bernard, tout d'abord en quelques mots, pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Je dis en quelques mots car le déroulement de l'émission nous permettra sans doute davantage d'entrer dans le détail. Qui commence, Bernard ou Mathieu? Bernard.
Bonjour. Oui, je suis parent d'élève. Et
c'est une saine tâche.
C'est ce qui m'a amené à découvrir les notes, et notamment les notes de musique. Mais en fait, j'étais au départ pas très formé pour les notes. J'étais plus formé pour les couleurs. Mais ça rejoint l'émotion, qu'elle soit musicale ou picturale.
Et on parle de touches, de couleurs aussi, quelque part.
Tout à fait.
Le vocabulaire de la peinture et celui de la musique peuvent être liés.
Oui, de touches et puis aussi de nuances. Et c'est très important, les nuances musicales, les nuances au niveau d'un tableau et les nuances des couleurs.
Alors quand vous dites que vous êtes parent d'élève, ça veut dire que vous avez un enfant, des enfants, j'en sais rien, qui ont été élèves dans plusieurs lieux, c'est ça?
Oui, et ce sont ces enfants ou cet enfant qui m'ont amené à avoir un parcours au niveau des conservatoires et de la musique en général. Et c'est quand même un parcours pas simple.
Mais d'être parent ou d'être musicien?
Les deux, mais qui est plein d'émotions et plein de satisfaction aussi.
Et c'est le plus
Mais beaucoup de contraintes aussi.
On n'a rien sans rien. Mais après, on parlera de tout ça tout à l'heure sûrement. Mathieu.
Alors moi, je suis...
Le fils de Bernard.
Je suis le fils de Bernard. J'ai été un enfant, je pense, on va dire turbulent.
Ah bon ?
Oui. J'avais besoin de bouger, j'avais besoin de beaucoup d'activités. Et mes parents, tous les deux professeurs d'EPS...
Alors EPS, pardon, éducation physique et sportive.
Tout à fait.
Prof de gym, comme on dit entre nous.
Ouais. Mais la gym est juste une des pratiques, hein, n'est-ce pas ? Ouais. Et en fait, dans ma jeunesse, ils m'ont proposé beaucoup d'activités différentes. Et quand j'ai essayé la musique, j'ai développé une durée d'attention que je n'avais pas jusque-là. Donc voilà, j'ai continué cette pratique et c'est vrai que j'ai trouvé dans ce lieu-là aussi un relationnel qui pour moi a été... était important parce que la cour d'école, comme pour beaucoup d'autres enfants, n'a pas toujours été facile. Hein ? J'étais le plus petit, j'avais des lunettes, c'était pas... voilà. Et en fait, dans la musique, j'ai aussi trouvé ça qui m'a apporté une sorte de sanctuaire pour grandir.
Oui, la musique, c'est aussi, donc, ça concourt à plein de choses. La formation musicale, mais la formation personnelle, l'estime de soi, c'est ça que j'entends à travers vos propos aussi.
Ah oui, oui, moi je pense que, d'ailleurs, c'est souvent sur le bulletin de mes élèves, c'est souvent que je mets une remarque sur le savoir-être en groupe. Alors, c'est une fonction de la musique extrêmement importante. Et d'ailleurs, toi qui es chef de chœur, chanter ensemble, c'est la première pratique musicale, c'est la première pratique de... presque de sociabilité de l'homme, oui. Pas loin.
Vous venez de dire que vous parliez de vos élèves parfois, que vous écriviez des choses à propos d'eux. Donc, d'élèves, vous êtes devenu enseignant, c'est ça ?
Oui.
Ah,
Je suis enseignant à l'école départementale de musique.
De la Charente, hein,
de la Charente, ça, oui. Le CRI de la Charente, conservatoire à rayonnement intercommunal, oui. Qui est établi sur 16 antennes, qui est un service dispensé par le conseil départemental. C'est mon premier poste en conservatoire et j'y suis depuis 15 ans.
Et vous enseignez quoi ?
J'ai enseigné au tout départ la formation musicale. L'ancienne directrice qui s'appelait Florence Turpot, en me recrutant, m'a donné la possibilité, tout de suite elle m'a dit « Mais nous avons vu que tu avais un diplôme d'état de musique ancienne, donc... si jamais il y a des possibilités d'ouverture de classe, on te suivra. »
Une toute petite précision, pardon, la musique ancienne, c'est ?
La musique ancienne, c'est tout ce qui se situe en dessous du classique, les 30 ans que représente le classique.
Ouais.
Donc, ça représente énormément de siècles. Ce qu'on appelle musique ancienne aujourd'hui, après, évidemment, on peut la détailler à travers la musique antique, puis la musique médiévale qui, elle, mérite d'avoir énormément de sous-classements, parce que c'est pareil, c'est un vaste temps, en fait, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses, donc quand on parle de musique médiévale, après, il y a des petites périodes, comme l'Ars Nova, l'Ars Subtilior, qui mènent doucement vers la Renaissance, jusqu'au Baroque, qui n'est pas non plus une frontière stricte, et puis, de même, à la suite de Bach et de Mozart, qu'on pourrait classer comme dans la fin du baroque, j'abuse peut-être un petit peu
non,
en disant
allez-y,
ça
c'est
pour certaines oreilles,
mais pour moi, c'est aussi... ses repères et ses jalons, c'est toujours très intéressant.
C'est aussi une apogée du baroque.
Les auditrices, je pense, et les auditeurs, en tout cas pour moi, et j'espère qu'ils partagent mon avis. Auditrices, auditeurs, aujourd'hui, dans Donnez-nous vos notes, sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5 pour Sainte, nous avons la chance, vous l'avez compris, de recevoir non pas un invité, mais deux, un père et son fils. Le père, c'est Bernard, le fils, c'est Mathieu, ou un fils et son père, je ne sais pas dans quel sens, et en tout cas, c'est un aller-retour constant et permanent entre eux, vous venez déjà de l'entendre. Le premier extrait musical qu'ils ont choisi de nous faire entendre fait aussi état, je crois, de nombre d'éléments communs à leur parcours respectif. Le premier extrait musical, Mathieu Bernard, qu'est-ce que c'est ? Qu'allons-nous entendre et interpréter par qui et pourquoi, finalement ? C'est Mathieu qui répond.
Oui, alors, je vais... papa va répondre aussi.
Bien sûr, chacun son tour.
Il va répondre à la suite de cette phrase. Si mon père a commencé à créer des associations en Charente autour de la musique... C'est par rapport à cette personne, qui est Katia de Golubinov, qui est pour moi une de mes mamans musicales, en tout cas la première. Je peux dire sans aucune hésitation que si j'ai choisi d'être musicien dans ma vie, c'est sous son influence bénéfique.
Bel hommage, je trouve.
Oui, oui. Et puis, elle m'a vraiment propulsé entre l'âge de 15 et 19 ans dans mon parcours. Je me souviens d'une discussion, alors que j'allais passer pour la deuxième fois mon bac, où, excusez-moi pour la vulgarité, mais ce sont ces mots littéraux, elle m'a dit, je lui demandais un peu si la musique c'était une possibilité. Mathieu, si tu fais autre chose d'autre, tu vas t'emmerder.
Et au moins, c'est très direct.
Voilà,
au moins. Et elle avait cerné le personnage, peut-être, Bernard, non, c'est ça?
Oui, tout à fait. Katia Dioglobinov, c'est pour moi et mon épouse à l'époque une amie. D'abord parce qu'elle avait un regard particulier sur la formation de Mathieu, mais aussi parce qu'on avait senti que c'était une très grande musicienne. Et elle nous a permis aussi de comprendre, je veux dire, de nous initier à la musique à travers Mathieu, mais aussi à travers elle. Et quand on est arrivé à Angoulême, après avoir enseigné dans la région de Clermont-Ferrand, Mathieu avait perdu ses marques et ses professeurs, notamment il était au conservatoire de Clermont-Ferrand, et on s'est senti un peu obligé pour poursuivre l'apprentissage. Avec mon épouse, nous étions enseignants et nous avions choisi et nous étions très déterminés sur la notion d'apprentissage, autant avec nos élèves qu'avec notre fils. On pense que le rôle des parents, c'est aussi de continuer ce qui se passe à l'école. Il n'y a pas d'enfant qui ne veuille pas apprendre.
Donc c'est le lien entre le milieu scolaire et le milieu familial,
donc
c'est ça ?
On a décidé, bien que mon épouse était un peu plus musicienne que moi, mais nous avons décidé de, autour de quelques amis mélomanes, de monter une association qui s'appelait les Amis de la Musique et qui ont fait les belles heures de Bassac et de l'église abbatiale de Bassac pendant plus de 10 ans à l'ouest Charente. Ouais. Et cette association, bien sûr, continue aujourd'hui. Mmh. Nous avons presque 30 ans d'activité et de concerts. Et dès le départ, il s'est imposé d'abord de faire revenir en Charente les enseignants que nous côtoyons et les concertistes que nous avons côtoyés et qui étaient des amis à Clermont-Ferrand, notamment le quatuor Odyssée, nous en reparlerons
oui,
plus
tout
tard.
À l'heure.
Mais Katia Dioglobinov s'est tout de suite imposée et elle nous a joué notamment les tableaux d'une exposition que vous allez annoncer, je suppose.
Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, je précise juste pour ceux qui n'ont pas le parcours du tout de Katia dans la tête, ouais, que c'était une chance incroyable à cette époque d'avoir deux pianistes au conservatoire d'Angoulême, ouais, d'une envergure internationale monstrueuse, qui étaient Katia Dioglobinov et Alberto Neumann. Katia, titulaire de 5 premiers prix du CNSM, chef de chant
CNSM, au CNSM, excusez-moi, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Ouais.
Katia Dioglobinov, aristocrate russe déchue, née à Marrakech, avec un talent en or dans les doigts, mais premier prix du CNSM de percussion, de composition, de piano, chef de chant à l'Opéra Comique de Toulouse, et puis un accident en 94 de voiture très très grave, une transfusion à Bordeaux pendant la période du sang contaminé, et une vie qui a changé. Et elle est restée prof à Angoulême, professeur de... elle avait le poste de pianiste accompagnatrice.
Oui, c'est ça.
Avec Madeleine Ravelot en même temps. Et j'ai pu bénéficier d'heures avec elle, musicales d'une très, très, très grande qualité.
Et Bernard veut rajouter quelque chose?
Oui, je voulais revenir sur les tableaux d'une exposition parce qu'elle a ouvert la route au sein des Amis de la Musique, d'une tradition. Et quand nous avons accueilli, que ce soit Claire Désert, Dania Chocarli ou Laurent Martin, on a eu droit au tableau d'une exposition.
Alors Katia, vous le disiez, Mathieu, c'est une pianiste d'abord, j'ai envie de dire, mais elle nous a quittés déjà une quinzaine d'années à peu près. Elle est arrivée à Angoulême pour être accompagnatrice à l'École Nationale de Musique, comme ça s'appelait à l'époque, puis École Nationale de Musique et de Danse, puis Conservatoire, etc. Elle aimait à se qualifier, et faut oser dire ça, mais je trouve que ça la dépeint bien, d'accompagnatrice rabâcheuse. Je crois que la
rabâcheuse.
Rabâcheuse. Ça, c'est vous qui l'ajoutez.
Et c'était, ah non, c'était elle.
Deuxième formule, mais merci de me l'avoir, l'avoir anticipé. Je crois que la formule décrit bien le personnage, tout autant pétri de talent que d'humour. Né à Marrakech, vous le disiez, d'une mère française, d'un père d'origine russe, de Goubinov, ça sonne un peu slave, hein. Elle savait puiser dans une diversité de valeurs, je crois, et de cultures pour alimenter sa passion artistique.
Ah oui.
Et elle essayait de la passer, de la transmettre. Scrutant l'âme humaine, je vais aller jusque-là, elle approchait chacun en faisant tomber le masque des apparences. Et ça, c'est très fort. Dépassant les conventions, et combien de fois les conventions établies et convenues, elle entretenait toujours avec ses proches, élèves, amis, des relations authentiques, révélatrices et exigeantes. Ses interprétations pianistiques magistrales, j'ose le terme, n'ont laissé personne indifférent. On ne peut que garder d'elle de vrais et magnifiques moments de musique vivante. Katia de Golubinov, une grande musicienne, vous serez d'accord. Alors, les tableaux d'une exposition par Katia. C'est à toi, Katia, je vais la tutoyer parce que je l'ai croisée avec plaisir il y a quelques temps. Tableau d'une exposition, alors c'est construit par rapport à une exposition imaginaire, une aquarelle peinte par Hartmann, alors que cet homme-là était étudiant architecte en Italie, et le dessin représente au fond un vieux château, d'où le titre de ce qu'on vient d'entendre, Le Vieux Château. Plus largement, donc, de quelle exposition s'agit-il? C'est un hommage de Moussorgski à son copain tragiquement disparu, et donc il a imaginé une exposition qui allait avoir lieu, mais qui peut avoir lieu dans la tête de tout le monde et dans le souvenir. Je crois que c'est une belle preuve d'amitié. Mathieu, Bernard, moi je voudrais savoir, selon vous, amitié et art, avec ou sans S, amitié et art d'ailleurs, ça peut se conjuguer? On peut être ami, artiste et ami, ou pas? Ou on est l'ennemi forcément? Amitié et art, ça va ensemble?
Moi, je n'arrive pas à travailler avec des personnes avec lesquelles je ne m'entends pas. J'ai cessé ça il y a longtemps.
C'est Mathieu qui répond.
Oui, j'ai arrêté de travailler dans des situations de travail. Et je pense que, à moins qu'on y soit forcé par telle raison ou telle raison, on ne le fait pas. Moi, j'ai une liberté artistique de travailler avec qui je veux, qui est quand même très grande, de par les diverses... de par la manière dont je me suis positionné dans le métier. Je ne dépends pas de quelque chose.
C'est une belle richesse, je trouve. Très
bah, c'est très important. Après, moi, je veux vivre comme ça. Il y a d'autres personnes qui veulent accéder à d'autres choses, qui vont prendre une autre direction. Mais là-dessus, je ne porte aucun jugement.
Bien sûr, j'entends. C'est votre sentiment à vous et votre choix, oui. Votre ligne directrice, oui. Finalement. Bernard ?
Je ne le savais pas au départ, mais autant que je me rappelle, dans les associations dans lesquelles j'ai travaillé, je n'ai que des amis, en fait. Et dans mon activité plus personnelle, artistique, qui est la peinture, si elle fait référence à un travail solitaire, je ne peux pas exposer sans des amis autour de moi. Donc, tous les amis que j'ai, ils sont liés soit à la musique,
donc
soit
à la peinture. Donc, c'est le partage, c'est la rencontre.
Tout à fait.
Oui. Et c'est important dans le domaine de l'art en général, alors.
Tout à fait.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est une partie pour piano, mais on a un musicien français qui a fait une orchestration des tableaux d'une exposition et de ce vieux château. En particulier, c'est Ravel. Et puis, il a confié la mélodie.
Un tout petit peu connu.
Pardon ?
Un tout petit peu connu.
Ouais. Et il a confié la partie mélodique qu'on vient d'entendre à un saxophone, ce qui était un peu novateur pour l'époque quand même. On aborde le sujet de l'orchestration. Donc, Mathieu, qu'est-ce que c'est une orchestration ? Selon vous, hein.
C'est une très bonne question. Je voudrais y répondre de manière un peu universelle, quelle que soit l'esthétique, parce qu'aujourd'hui, quand on écoute des musiques modernes, il y a une orchestration, même si ce ne sont plus les mêmes instruments. L'orchestration, c'est le choix de mettre en valeur telle texture ou telle texture dans le morceau qu'on a choisi de réarranger. C'est de donner une importance dans le spectre que l'oreille de l'homme est capable d'entendre, entre 16 Hz et 20 000 Hz, à l'endroit où on souhaite alerter l'auditeur. C'est tout un ensemble de, à la fois de règles et à la fois de perceptions qui sont à la fois du fait de l'arrangeur, de l'orchestrateur, mais à part quelques petites différences quand on est jeune ou quand on est vieux et quelques petites exceptions génétiques, on entend tous à peu près au même endroit et on est tous sensibles à la même bande de fréquence quand elle passe dans notre oreille.
Dans la dimension physique du terme.
Dans la dimension physique, mais la dimension physique du terme, en fait, elle est physiologique aussi, parce qu'on a un rapport à la hauteur du son, à sa fréquence, qui est plus importante que ce qu'on croit. Il y a une, voilà, il y a ça, d'une part, le choix, et puis il y a un choix personnel de couleur, de choix instrumental qui peut rendre quelque chose plutôt, un son plutôt, alors je veux pas dire tous ces termes, mais effectivement il y a des sons qui sont plutôt veloutés, on peut acidifier quelque chose par la présence d'un autre instrument, d'une, tout ça c'est vrai que Ravel, bon, il était reconnu comme ayant là-dessus une oreille d'une subtilité assez incroyable. Des tas de compositeurs sont venus lui demander de réarranger, et puis quand on écoute les Quatuor à cordes, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième, mais il y a des jeux de timbres et d'effets sur les instruments qui sont spectaculaires.
Donc c'est une forme de traduction, mais j'ai envie de dire ça, ou d'aménagement. Est-ce qu'on peut retrouver la même chose dans la peinture, Bernard ? Reproduire, refaire, transposer, j'ose pas dire transfigurer, un tableau, ou une impression, ou une...
Mais de toute façon, c'est inhérent à la peinture. Je veux dire que... Oui. Bon, s'il y en a qui nous ont amenés à cette perception des choses, ce sont les impressionnistes. Je veux dire, on arrive là au plus haut niveau de la transposition et de la perception d'émotions. Mais toujours, la peinture, à part peut-être... elle n'est jamais hyper réaliste. Je veux dire, l'intérêt c'est que l'artiste y mette du sens, y mette son émotion, et là il y a une transcription, il y a une interprétation.
Le mot est fort et le mot est lancé.
C'est une interprétation, même si beaucoup d'artistes travaillent pas forcément sur le site aujourd'hui et utilisent des photos, ce sera jamais la photo, il va y mettre son interprétation du point de vue des couleurs, du point de vue des nuances,
son angle
du point de vue d'une ambiance générale. Ouais. Donc l'ambiance générale, c'est quelque part toute l'orchestration qu'il y met au niveau de sa palette et puis de sa sensibilité aussi.
On parlait de Ravel en tant qu'orchestrateur de cette œuvre, tableau d'une exposition, mais c'est pas lui le premier qui l'a fait, parce qu'il y a d'autres musiciens qui l'ont fait, et notamment Touchmalov. C'était une version qui ne retenait que 7 des tableaux d'origine. Une autre orchestration est due à un compositeur britannique, Henry Wood, qui ne conserve aussi que quelques tableaux, et le premier à proposer une orchestration de l'intégralité fut Léo Funtek. Maurice Ravel, lui, il a fait la sienne en oubliant aussi quelques promenades d'un tableau à l'autre, mais je sais qu'on lui pardonnera comme on pardonnera aux autres, bien sûr. Et puis la version originale, on a entendu un extrait tout à l'heure, est fréquemment jouée et enregistrée. Un arrangement pour ensemble de cuivre a été écrit, et puis un autre pour quatuor à cordes. On doit à un compositeur japonais d'adaptation pour guitare soliste. D'autres versions très éloignées du modèle classique ont été données aussi par des groupes de rock progressif et des ensembles de jazz et de folk, dont celle d'un trio Emerson, Lake et Palmer, ainsi qu'une version synthétiseur par un autre japonais, Isao Tomita. Des arrangements en heavy metal, le saviez-vous, furent réalisés par des groupes allemands et américains. Et puis, pour revenir à la version de Ravel, je ne saurais trop recommander, avant de savoir ce que Mathieu Vernard en pense, l'interprétation que dirige Miu Wun Chung, dont la renommée est internationale et qui dirige ça pendant 15 ans avec bonheur et pour le bonheur de tous, c'est mon avis, l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Nous avons commencé en écoutant une pianiste, voici maintenant un ensemble instrumental. Tout à l'heure, c'est Bernard qui nous a parlé du nom de cet ensemble, c'est un quatuor, c'est le quatuor Odyssée. Alors Bernard, Mathieu, peut-être Bernard, quatuor Odyssée, Kezako, pardon du terme.
Alors le quatuor Odyssée, en fin de compte, c'est un nom qui a été trouvé en Charente par rapport à quatre musiciens, dont deux étaient des enseignants qui étaient membres de l'orchestre d'Auvergne, qui étaient des amis, mais qui ont fait les premiers pas, si je puis dire, avec Mathieu au violon. Donc nous les connaissions bien, c'était des amis. Et quand on est parti de Clermont-Ferrand, Marta Petlikova, qui était la première violon du quatuor Odyssée, me dit « Mais alors, on va plus se voir ?» Et elle m'a annoncé sous forme de boutade « Mais fais-nous un concert en Charente !» Bon, j'avais absolument pas, jusqu'à maintenant, été dans la gestion des concerts, et arrivé en Charente, je me suis enquéri de trouver une solution pour qu'on puisse les revoir et qu'ils puissent y revenir. Et Martha était donc premier violon, son mari, Zdeněk Petlík, était second violon, Isabelle Ernez était altiste, et Jean-Marie Trotreau était violoncelliste, et ça a formé un quatuor qui, pendant 10 ans, nous ont joué à chaque concert de Noël à Bassac. Je veux dire, toute la musique pour quatuor à cordes de Haydn, Mozart, Ravel aussi, Debussy, et bien d'autres, et ça a fait, je veux dire, les grandes heures des amis de la musique avec Katia de Golubinov que nous venons d'entendre.
Et l'Odyssée du quatuor en Charente, c'est
l'Odyssée,
ça?
L'Odyssée, il y avait la notion de voyage, il y avait la notion de retour, il y avait la notion. Et avec Martha, on a choisi ce nom. Et il a fait sa route. Ils sont même venus en trio à certains moments. Ils sont venus aussi à Montbron. Enfin, ils ont irrigué un peu la Charente sur d'autres associations. Et ils sont restés des amis. Ils ont maintenant un fils qui s'appelle David Petlík et qui fait une très grande carrière internationale.
De quoi ?
De violon,
Sûr. On reste dans les cordes.
Tout à fait.
C'est dans nos cordes, dans vos cordes en l'occurrence. Le quatuor à cordes numéro 12 en fa majeur. Peut-être qu'on le connaît mieux sous son autre titre.
L'américain,
Le quatuor américain. Et c'est de Antonín, comme on devrait dire, Dvorak. Et c'est de la musique de chambre. Alors je me retourne vers Bernard, Mathieu Bernard, la musique de chambre. Qu'est-ce que c'est ça, la musique de chambre?
Oui. Est-ce qu'on repart à l'origine?
Non, on va faire un ou si vous voulez, mais en résumé alors.
Bon, alors en très court. À l'époque de Louis XIV, il existe la musique de cour, la musique d'écurie, la musique de chambre. Et puis la musique de la chambre du roi. C'était ça exactement. Donc la musique d'écurie, c'est les grands ensembles avec toutes les sacs-boutes pour partir à la chasse.
Les sacs-boutes, c'est l'instrument avant, hein, genre trombone, trompette.
C'est les instruments, c'est les musiques, on va dire, d'extérieur, festive. Et la musique de cour, c'est la musique très très élégante, donc une partie de Lully, une partie de tout ça.
On peut danser dessus.
Voilà. La musique de la chambre du roi, ce sont des petites formations, parce que ce sont des petites formations, puisqu'il faut que ça loge dans la chambre du roi.
Qui est déjà grande, mais quand même.
Donc voilà l'origine de la musique de chambre. La musique de chambre, c'est un ensemble instrumental où a priori on n'est que un par voix, pour commencer. Et qui
un par voix, c'est-à-dire un violon, etc. Par exemple, mais pas un groupe de violons, c'est ça,
non,
vous le dites.
D'accord, non,
oui. Pas assez de place.
Les quatre saisons de Vivaldi, c'est de la musique de chambre.
Par exemple.
Bon, bien, j'abuse bien un connu. Peu. Mais bon. Donc voilà, c'est tout. C'est un petit ensemble, effectivement.
Formation réduite. Mais qui peut donner des résultats, je trouve. Vous aussi, sans doute.
Selon l'ingéniosité des compositeurs, on peut aboutir à un sentiment orchestral.
Alors le quatuor américain, avec son nom, on peut se douter qu'il y a un lien avec l'Amérique. Bernard?
Oui, Dvorak est allé aux États-Unis, enfin en Amérique, et il s'est beaucoup inspiré des musiques populaires. Mais je voulais revenir sur ce quatuor de Dvorak. J'ai oublié de dire que Marta Esdeniak était d'origine tchèque. Et quand Marta arrive en France pour suivre les cours dans la classe de Gérard Poulet, elle postule pour un poste de premier violon à l'orchestre d'Auvergne, alors dirigé par Kantorov. Et elle y est restée. Et je pense qu'elle y est encore. Et elle ne va pas tarder à reprendre sa retraite. Mais elle est toujours premier violon à l'orchestre d'Auvergne.
Et comme elle a bien fait, je trouve.
Oui. Et qui est pour moi, enfin, je pense pour beaucoup de mélomanes, certainement une des meilleures formations à cordes européennes. Voilà, et qui traversent le monde, ils vont au Japon, aux États-Unis, un peu partout. En plus d'une saison très, 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 je veux dire, imprégnée de l'Auvergne, puisqu'ils ont un parcours où ils irriguent tout le territoire auvergnat. Voilà, mais aussi en France.
Alors, comme dans la 9e symphonie de Dvorak aussi, hein, la symphonie du Nouveau Monde, on l'appelle comme ça, cette 9e symphonie, c'est pas seulement l'Amérique quand même, hein, qui est évoquée, parce que c'est aussi l'Europe centrale. Oui. La région en particulier dont Dvorak est issue, les quatre mouvements du quatuor américain ont, paraît-il, été esquissés en moins d'une semaine à Spielville, dans l'Iowa. Et cette ville-là, c'est une ville dans laquelle on trouve une importante colonie tchèque qui appréciait d'écouter avec nostalgie la musique de Dvorak. N'importe où, en particulier dans les églises. Donc la composition a pris à peine 15 jours. C'est possible ça? Quand on s'appelle Dvorak, oui, sûrement, hein, quand même. Il a travaillé quand même, Dvorak, avec un sentiment d'euphorie, de facilité pour le moins, comme si les impressions exotiques des espaces américains s'étaient accordées idéalement avec son tempérament slave, d'où la rencontre entre les grands espaces et le grand tempérament. La substance de l'œuvre, bon, ben, c'est un quatuor pour deux violons, finalement. Alto et violoncelle, on a bien toute la famille des instruments du quatuor à cordes. Et puis il y a quatre mouvements, allegro, ma non troppo, lento, molto vivace, et finalement, ce sont des indications de mouvement, finalement, de vitesse, hein, c'est ça. Et cette œuvre, comme beaucoup d'autres, a été suivie de nombreuses adaptations pour quintette avant, pour quatuor hanche, à hanche, les enchantés, j'aime beaucoup le nom de cet orchestre-là. Et puis le quatuor Habanera, un quatuor de saxophone, a donné sa version. Et voici le quatuor américain, et ça sonnait sous les cordes et les archers du quatuor Odyssée, de par Dvorak. Alors il faut le dire, mais Bernard y faisait allusion, que les concerts du Quatuor Odyssée comprennent certaines des plus belles pages de notre répertoire, des œuvres connues mais aussi d'autres moins connues, et puis ils vont jusqu'à remettre au goût du jour, enfin en tout cas dans l'actualité, des compositeurs oubliés. Il leur arrive de s'associer avec des metteurs en scène, des chanteurs ou des comédiens, et lors du deuxième confinement, le Quatuor Odyssée a participé à un nombre de concerts éducatifs dans le cadre du parcours de sensibilisation musicale de la ville de Paris et du festival d'Est Ensemble, qui s'appelle La Culture Continue. C'est sans doute l'idée de transmission et d'éducation qui prévaut dans cet objectif, et je crois que cette idée d'éducation et de transmission, elle est forcément chère aux enseignants qui sont en face de moi aujourd'hui, non Bernard?
Tout à fait, il devrait y avoir un orchestre d'Auvergne dans toutes les régions pour diffuser la musique classique comme ils l'ont fait en Auvergne, je veux dire, bon. Et ça manque quelque part pour que justement la musique classique devienne un peu plus populaire. C'est vrai qu'ils vont dans les écoles, c'est vrai qu'ils vont dans les facultés. Il y a régulièrement tous les soirs au niveau des facultés des formations réduites de l'orchestre d'Auvergne qui se produisent en quatuor, en trio, voire en soliste quelquefois.
Alors, on a un orchestre de chambre en Nouvelle-Aquitaine qui est très friand aussi d'aller vers tous les publics. Et on recevait il y a quelque temps un quatuor issu de cet orchestre qui s'appelle le Quatuor Hermione, qui a les mêmes ambitions, les mêmes modes de fonctionnement.
Oui. C'est un peu dommage qu'on le voit moins en Charente.
Ah, moi, là, il faudra poser la question, en tout cas moi, j'ai pas la réponse. Donnez-nous vos notes, c'est sur RRRDDDCCCC. On change de région, on change de continent carrément, on s'éloigne de notre Poitou-Charentes qu'on évoquait tout à l'heure, on s'éloigne de l'Auvergne aussi, vers le Japon, un chant de l'automne japonais. Qui nous en parle ? Mathieu, Bernard ? Bernard.
Oui, c'est une œuvre interprétée par l'étudiantina d'Argenteuil, qui est une formation de mandoline, peut-être la plus grande formation française, dont le directeur artistique est Florentino Calvo, et que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'un concert que j'enregistrais à Marcillac-Lanville. Et on a fait connaissance, et il est revenu très régulièrement, que ce soit au sein des Amis de la musique que de Tardoir Allegro, soit en formation quatuor, soit avec un guitariste et plusieurs mandolines, soit en grande formation. Et j'ai été relativement subjugué par cet air qu'il a joué, je crois, à Bassac, à une époque.
C'est un orchestre à plectre, je crois.
C'est un orchestre à plectre.
Qu'est-ce que c'est que des plectres ?
Eh bien, c'est une sorte de petits morceaux d'os d'une aile d'oiseau qui sert de médiator, quelque part.
Voilà, pour les gratter, mélodies. Je veux aussi dire, voilà. Pour attaquer les cordes, oui, de ces instruments qui composent l'estudiantina. Estudiantina, c'est étudiant, quelque part. On est encore dans le milieu de l'enseignant, là, non ?
Ça fait référence, je crois, à des groupes italiens et à une terminologie en Italie qui est... Oui. Usité beaucoup plus que chez nous.
Oui, c'est né en Italie, effectivement, musicales. Dans la seconde moitié du 19e siècle. Et puis, à Argenteuil, on perpétue cette tradition. Oui. Souvent, c'est avec une personne qui transmet ça.
Oui, Florentino est vraiment quelqu'un qui a mis autour de lui tout un groupe d'étudiants et puis une formation en place avec des nouveaux professeurs qui irriguent un peu tous les conservatoires de la région parisienne. Et qui a remis au goût du jour la mandoline, qui était un instrument au début du XXe relativement plus populaire qu'aujourd'hui, en France, mais aussi beaucoup en Allemagne. Un instrument aussi d'ailleurs qui est proche du violon, puisqu'on a, les mêmes cordes.
Ah, c'est plus que ça. C'est la même longueur de manche, c'est exactement le même instrument. Il n'y a pas de différence pour en jouer au niveau du placement des doigts.
Au sens physique et au sens du jeu, oui.
Un violoniste sait jouer de la mandoline, techniquement parlant. Par contre, il ne sait pas forcément faire sonner et avoir la technique médiator ou doigt qui va avec. Les mandolines, comme le disait papa, il y en a vraiment de différents types. Et il y en a partout, entre l'Europe de l'Est, l'Irlande, l'Italie, on en trouve partout des mandolines, et même au nord du Maghreb. Donc c'est souvent des instruments qui prennent des formes un tout petit peu différentes selon ce pourquoi elles sont utilisées. Il y en a certaines qui sont plus pensées pour l'accompagnement, et du coup le manche est un tout petit peu plus large pour pouvoir exécuter des accords à plusieurs doigts, alors qu'il y en a certaines qui sont vraiment des instruments qui sont pensés, même dans la construction, vraiment pour la mélodie. Ils vont jamais prendre le rôle de l'accompagnement. Donc voilà, si vous tapez mandoline sur internet, vous allez trouver quand même même si le manche est le même, vous allez trouver des formes d'instruments un peu différentes.
En tout cas, Argenteuil, c'est autour de 60 musiciens, d'après ce que je crois savoir, et c'est un orchestre connu nationalement et internationalement. Vous le disiez, Bernard, il a remporté plusieurs prix. Il a collaboré avec d'autres ensembles, notamment l'Orchestre National de Jazz. Et puis l'Estudiantina a toujours eu comme préoccupation de faire découvrir ou redécouvrir son interprétation. Le mot est important, vous le disiez tout à l'heure, Bernard. Mathieu sera d'accord, j'en doute pas une seconde, du répertoire contemporain. Voilà ce que dit une élue d'Argenteuil, celle qui occupe la fonction d'adjointe du maire délégué à la culture et au patrimoine. L'Estudiantina, c'est une excellence, c'est l'excellence de la tradition culturelle argenteuillaise. Madame, je pense qu'il convient de saluer ce qui apparaît comme un réel engagement municipal pour la culture, pour l'Estudiantina notamment. Revenons quand même au chant de l'automne japonais. Alors c'est Yasuo Kuwahara, pardon si je prononce pas exactement comme je devrais, qui l'a composé. Et ses compositions, celles-ci comme d'autres, racontent souvent des histoires. Celle-ci décrit le travail des agriculteurs au début de l'automne, avant un orage accompagné d'une violente pluie. Puis, vers la fin, la pièce se calme, la musique se calme, et les éléments retrouvent une certaine clémence. Nous écoutons maintenant « Chant de l'automne japonais ». Voilà, donc c'était l'estudiantina et on a entendu les mandolines, tiens, vais-je oser dire, la mandoline étant finalement un terme générique. Retour au piano avec quelqu'un que vous avez cité tout à l'heure, Bernard ou Mathieu, je ne sais déjà plus, pardon, ma mémoire flanche. C'est Laurent Martin. Qui c'est Laurent Martin ?
Laurent Martin, c'est un pianiste, un ami aussi.
De toute façon, on parle peu d'amis aujourd'hui. Hein.
Oui, mais peut-être un peu plus que les autres.
Ah.
Et à chaque fois qu'on a un concert en vue, on pense à lui. Il est venu souvent, que ce soit au niveau des amis de la musique, pour accompagner d'autres d'ailleurs, alors qu'il est un grand concertiste soliste. Mais il aime jouer avec les autres, il aime la musique de chambre, c'est sa passion. Une autre de ses passions, et un autre point de sa carrière, on l'entend souvent sur France Musique à ce sujet-là, c'est d'être le découvreur du répertoire romantique et notamment féminin du 19e siècle. On lui doit beaucoup de découvertes de femmes illustres maintenant, qui sont reprises par d'autres. Il est venu souvent accompagner notamment David Petlik, Marta Petlikova au sein de concerts en duo violon-piano.
Des personnes que vous avez citées tout à l'heure.
Qu'on a citées tout à l'heure. Et il a aussi, je crois, il est le dernier à avoir interprété les tableaux d'une exposition à Montbron d'une façon magistrale, parce qu'à la fois il a fait une interprétation musicale relativement de très haut niveau, mais aussi une explication pédagogique que je n'avais jamais entendue. Voilà, donc sur un répertoire sur les musiques russes. Donc il a complété la collection d'interprétations que nous avions sur cette œuvre. Voilà, on a eu aussi, bien sûr, je l'avais dit tout à l'heure, Claire Désert qui l'a joué, Dania Chokarli. Donc c'est devenu un passage obligé au sein de nos associations.
Et pourtant là, on va écouter du Chopin, parce que souvent, à tort ou à raison, j'en sais rien.
Alors,
à raison pour moi, on associe piano et Chopin, et Chopin et les œuvres de Chopin. Dans l'œuvre de ce compositeur, il y a bien sûr les polonaises, les souvenirs de sa terre natale, mais il y a aussi les nocturnes qui figurent en bonne place. Les nocturnes, qu'est-ce que c'est ? C'est 21 morceaux pour piano seul. Et si Chopin n'a pas inventé le nocturne, il a largement popularisé le genre à partir d'une forme développée par un Irlandais, John Field, dont on disait que Chopin avait la même sonorité. Bernard ?
Oui, sur Chopin, je voudrais relater quelque chose, une conversation que nous avons eue avec Laurent il y a quelque temps. Il a sorti un CD. Mmh. C'était pas tellement dans son répertoire, et j'étais très étonné, parce que c'est quelqu'un de très doux, dont les mélodieux coulent de source, dont les mélodies coulent de source. Et je lui dis, mais Laurent, pourquoi t'as mis tant de temps ? Ben, il dit, j'étais pas prêt. J'ai dit, quand j'écoute ton interprétation de Chopin, j'ai vraiment l'impression d'être dans un salon avec Georges Sand. Puis, j'ai vraiment l'impression que c'est Chopin qui joue, parce que j'ai écouté beaucoup d'interprétations qui me semblaient sportive, excusez le terme, mais quand on écoute Laurent, on a vraiment l'impression que c'est Chopin.
Et c'est un sportif qui vous le dit, il sait de quoi il parle, hein, quand même. Et oui, alors c'est une identification Je vais aller jusque-là, au compositeur, à ce qui se passe dans la tête du compositeur.
Oui. Oui.
Et donc forcément dans le corps du compositeur, parce que
il joue très régulièrement maintenant Chopin aussi. Il le joue merveilleusement bien, mais il a mis du temps avant vraiment de rentrer dans ce compositeur.
Rien ne sert de courir. Ouais. Hein.
Tout à fait.
La forme du nocturne, c'est un mouvement lent d'expression pathétique, je vais dire, avec des ornements mélodiques et puis une partie centrale accélérée, et la structure est souvent ABA, une formule A, B et A qui revient. Avec une mélodie souple et ornementée, accompagnée par une main gauche aux arpèges ondulants. J'aime bien la terminologie, les arpèges ondulants. Au-delà des conventions, Chopin, il a quand même su faire évoluer le nocturne en s'inspirant d'air d'opéra et en s'autorisant un rythme ou une forme plus libre. Il a aussi recouru au contrepoint, une technique de composition, et il a créé une tension. Il a augmenté la tension qui existait déjà dans le nocturne, ce qui a renforcé le caractère dramatique. Nombreux sont ceux qui considèrent le nocturne de Chopin comme un mélange entre la forme et la structure de Field et le son de Mozart. Excusez du peu. Voici sans doute un nocturne des plus célèbres, interprété par Laurent Martin, c'est ça ? Il s'agit du nocturne numéro 1 de Chopin. Voici un moment important, celui de découvrir un mot nouveau, mitématis. Mathieu, Bernard, qu'est-ce qui s'y colle, le père ou le fils ? Le père, c'est Bernard, le fils, c'est Mathieu. Qui va nous parler de mitématis, pardon, et nous dire surtout la signification ?
Alors, ça va être moi, Mathieu.
Mathieu, oui.
Signification, il n'y en a pas vraiment, je peux vous donner l'origine. Alors, mitématis, on est en 2003-2004, je suis en études à Poitiers, au conservatoire, avec dans le département musique ancienne, en cycle professionnalisant, et avec quelques autres personnes de la classe de flûte à bec de Claire Michon à l'époque.
Qui a travaillé à Angoulême aussi, je crois.
Qui a ouvert la classe de flûte à bec à Angoulême.
Ouais, ouais.
Au tout départ, mais elle n'est pas restée longtemps. Claire, elle a ouvert plusieurs classes de flûte à bec en France.
Et si elle veut venir en parler sur les ondes de RDC,
ça
sera bienvenue.
Ça sera une invitée de premier plan,
oui. Absolument.
Pour notre instrument, elle a fait énormément. Pour la flûte à bec,
oui.
Elle a fait énormément. Oui. Elle fait partie des la troisième génération de flûtistes à bec qui ont redécouvert l'instrument et qui l'ont repopularisé, et il y a encore du boulot.
Mitématis, alors.
Mitématis. Alors, bon, on cherchait un titre. On cherchait un titre, et au tout départ, on avait envie de prendre un fil rouge, un guide, pour monter, non pas juste un concert qui rassemblerait des pièces, mais qui a un côté contextualisé vis-à-vis d'un mythe. Donc, en cherchant, on a fait mythe et Matisse, parce que Matisse, c'était apprendre des mythes. Bref. Ce nom-là est resté pour cet ensemble qui a considérablement évolué en potentiel humain et tout ça, parce que à la suite des études, on était tous venus à Poitiers pour le département musique ancienne qui, avec le CNSM de Lyon, était à l'époque un des deux plus gros en France. Mmh. Et puis, au fur et à mesure, l'équipe a changé parce qu'il y en a qui sont partis dans d'autres pays, à l'opposé de la France. Et l'ensemble a tenu à peu près, je crois, notre dernier concert, ça doit être 2014 ou 2015, où là, les membres, à cette époque-là, on faisait beaucoup de musique baroque avec Lucille Chartrain, Éric Brunet et Thomas Thiébaud. Le confinement, non, c'est pas le confinement, c'était avant le confinement. Lucille est partie
à jouer du clavecin, Lucille, c'est
oui,
ça.
Oui, elle est professeure à Tarbes maintenant, mais elle est partie étudier à Utrecht pendant une période. Ça a complexifié légèrement notre calendrier de répétition. Et puis Éric Brunet est devenu professeur sur Paris.
Professeur de ?
De Futabec. Là, on a eu des raisons très pratiques, c'est-à-dire qu'on n'avait pas énormément de concerts. L'aller-retour en train grillait tout son cachet à Eric, donc ça a été compliqué à entretenir cet ensemble. On en parlera plus tard, mais à partir de 2012, avec Julien Hopic, on a monté Furia Francese avec d'autres collègues et des poils.
Alors, Furia Francese voilà, et Julien Hopic, on y reviendra tout à l'heure, mais ça fait une belle entrée en matière. Bah,
c'est qu'en fait, il y a une continuité quand même pour moi entre les deux groupes. Voilà. Mythématis au départ, donc c'était donc avec des membres du conservatoire de Poitiers. Et à cette époque-là, parce que je vois que les deux prochaines écoutes concernent beaucoup ça, Claire nous a au centre de la classe, et puis spontanément, nous, on a adoré ces esthétiques-là. On en a parlé.
Claire, c'est Claire Michon.
Claire Michon, oui. On a beaucoup découvert les répertoires médiévaux. Pour la plupart, les répertoires médiévaux postérieurs au XIe siècle. Et les répertoires médiévaux qui sont les premières traces de profanes qu'on a aussi, mélangées à du sacré, évidemment à cette époque-là. Mais on nous a beaucoup intéressé à ces choses-là, et puis nous, ça nous a beaucoup plus un répertoire qui était vraiment en redécouverte à cette époque-là. Et bon, il faut s'imaginer que c'est un répertoire qui est complexe. Techniquement, il peut être relativement simple à jouer sur l'instrument. Par contre,
au premier abord, en tout
au cas, premier abord. Par contre, il n'y a tellement aucune direction sur les partitions qui nous sont parvenues. Et la plupart, il faut bien se dire qu'il y a beaucoup de partitions qu'on reconstruit parce qu'elles nous parviennent dans un certain état. Les techniques de conservation et le papyrus qui datent de plus de 10 siècles.
C'était pas téléchargé à l'époque.
Non, c'était pas téléchargé. Puis il y avait les incendies, les rats, l'eau. Il y a peu de choses qui nous sont revenues en bon état. Ça demande un travail de reconstruction, de mise en condition dans l'univers de ces musiques. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement d'avoir fait ce travail, c'est qu'en fait, les musiques qui sont vernaculaires, et bien c'est ces musiques-là et les musiques traditionnelles. Et quand on veut chercher la source de courant moderne, ce qu'il y a de plus court, finalement, c'est d'aller le plus loin possible.
On est construit sur ce qui s'est passé avant et on prépare ce qui viendra après. Ça, c'est vieux comme le monde et dans tous les domaines. Alors qu'est-ce qu'on va entendre ? On va entendre Mythématis qui nous joue ?
Alors là, c'est une istampita du sud de l'Italie qui s'appelle Trefontane. Ce sont les premières pièces au 13e siècle, enfin 14e plutôt, qu'on retrouve à peu près manuscrites correctement, qui témoignent d'un haut niveau de virtuosité sur les instruments déjà à l'époque. Istampita, à la base, ce n'est pas c'est pas estampille en français, ce n'est pas un morceau de musique, c'est une forme poétique de déclamation des troubadours et des trouvères, que certains compositeurs ont remis en musique.
Et voilà ce que ça donne.
Thank you.
On entend beaucoup de flûtes, là, forcément, que des flûtes.
Hein, il n'y a que deux flûtes.
Deux flûtes, ouais. Que deux flûtes. Et pourtant, on peut avoir l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Hein.
Ça, c'est l'église des curas, ça.
Ah, qui sonne. Ah oui, l'acoustique particulière du lieu, bien sûr, ça joue. Mithématis, toujours, avec une autre œuvre, Mariam Mastrem Virginem. Qu'est-ce que c'est, ça?
Alors, Mariam Mastrem Virginem fait partie d'une suite de 12 pièces qu'on retrouve dans un codex du nord de l'Espagne, à l'abbaye de Montserrat, qui s'appelle le Livre Vermeil. Tu as sa belle couleur rouge. Alors, c'est un codex tout à fait particulier sur l'histoire même de sa confection. Bon, à cette époque-là, on est au XIIe siècle, au nord de l'Espagne. Il y a, en échange culturel, la diaspora juive, les Maures qui sont au nord de l'Espagne, et la culture européenne qui est, voilà, qui est présente. L'échange culturel, scientifique est énorme. On n'a rien inventé avec Internet. Et d'ailleurs, on pourrait même se poser la question s'il n'y avait pas moins de conflits avant. Bref. Ce sont l'histoire de la création de ce livre, c'est qu'il y avait donc une forte culture populaire sur la place de l'abbaye de Montserrat. Et il y avait beaucoup de musique traditionnelle sur cette place. Et les prêtres étaient quelque peu dérangés dans leur méditation par cela. Du coup, ils ont récupéré les airs traditionnels et ont mis des paroles en latin dédiées à la Vierge Noire dessus. Ce qui donne, pour une musique sacrée, un ensemble de 12 pièces qui est tout à fait atypique dans le style. On sent le nord de la Méditerranée comme son sud qui est présent dans cette musique, comme on l'entendait d'ailleurs dans l'estampille d'avant. Hein, l'estampille d'avant, on est très très... on n'est pas proche, on est dans l'oriental aussi.
Et là, dans ce livre Vermeil, dans le recueil, en tout cas, c'est un recueil, hein, finalement. Certains passages sont des monodies, d'autres sont construits en deux, quatre parties polyphoniques, instrumentales, vocales, etc.
Pas quatre. Il y a jusqu'à maximum trois voix.
Trois, maximum. Vermeil. Et ça peut être chanté en canon aussi.
Il y a deux pièces en canon.
Ouais. Donc un canon, ça veut dire que tout le monde chante la même chose, ou presque, mais de manière décalée. Bref, je crois qu'il y a une simplicité relative de ces cantiques. Mais ça, c'est ce qui a fait finalement leur succès, et c'est ce qui a assuré leur postérité, évidemment. Oui. Ils figurent parmi les pièces de musique anciennes les plus enregistrées et les plus jouées de nos jours. Donc ça s'adresse à la Vierge. Vous disiez la Vierge Noire, c'est ça? Pourquoi la Vierge Noire? Parce que c'est la Vierge Noire qui est la Vierge locale, c'est ça?
Oui, c'est une statue.
Ici, nous entendrons une version instrumentale.
Alors oui, elle est complètement instrumentale, parce que je voulais vous faire entendre... L'ensemble Mithématis travaille à la fois sur le vocal et l'instrumental, mais je n'ai pas pu retrouver d'instrument vocal.
Eh bien, nous serons obligés d'y réentendre à nouveau dès que vous aurez retrouvé dans une prochaine émission. Exactement. En tout cas, voici, vous nous rappelez le titre, Mariam Mastrem Virginem, c'est ça, de Mithématis. C'est enregistré avec Cura aussi?
Oui.
Ah, mais dites donc, moi j'aimerais bien donner un concert avec Cura, ça me semble sonner bien comme endroit, non?
C'est une église qui est extrêmement agréable, elle est carrée, et quand elle est remplie, elle reste d'assez petite taille, donc on a une... Peut-être pas pour toutes les musiques, mais elle est très agréable à jouer pour des petits ensembles.
Elle est remplie chaque été depuis 15 ans.
Ah, qui le dites-vous? J'y suis allé plusieurs fois, et la dernière fois c'était il y a quelques mois, hein, dernier été. Babel, ça vous parle forcément, Bernard, Mathieu, Bernard?
Ben, Babel, c'est né d'un projet par l'association Tardoir Allegro.
Encore une association?
Oui, une association qui, sur Montbron, a fonctionné pendant 10 ans, et dont le principal objectif était quand même à la fois la musique classique, mais aussi la pédagogie. Et on a eu un travail important avec le milieu scolaire, notamment avec l'école primaire, où un groupe d'enseignants était partant, et où on a fait des projets, notamment avec l'ensemble Babel. Et de l'école de Montbron, on a aussi irrigué toutes les écoles de la commune, de l'ancienne communauté de communes, qui était plus petite à l'époque. On est allé à Charras, on est allé à Écura, on est allé à Rouzel. Et l'ensemble Babel s'est produit et a fait danser, chanter et jouer les élèves de toutes les classes.
Alors l'ensemble Babel, qu'est-ce que c'est cet ensemble? Qui nous le présente? Mathieu peut-être?
Oui. L'ensemble Babel, c'est trois musiciens. Soizic Drogueux, qui je pense est connu sur vos ondes. Taoufik Bargoud, et puis moi-même. Ça va faire suite à la discussion que j'ai eue sur le livre Vermeil, mais avec les professeurs que j'ai eus à travers Katia, à travers Steniak et Martha, j'ai toujours eu une connexion, même eux qui étaient dans la musique classique, avec leur culture à eux, qui était une culture traditionnelle dans laquelle on a beaucoup parlé de Dvorak. On pourrait dire que Katia aimait beaucoup jouer Scriabine. J'ai toujours été au contact, je veux dire, de ce reflet à travers les musiques classiques du monde qu'il y avait derrière. Et Babel, je souhaitais construire un programme qui ferait le tour de la Méditerranée et qui mettrait ces différentes musiques en relation, tant sur le point de vue rythmique que sur le point de vue mélodique. De faire comprendre les connexions qu'elles ont entre elles, qu'elles sont ni opposées ni opposables.
Alors dans Babel, on a choisi qui chante, les deux
Avec Soizic, on chantait assez souvent, c'était quand même elle la chanteuse principale. Et puis Toufik sortait tout un tas d'instruments traditionnels, le saz, le oud, le kanoun. Voilà.
Et alors un des résultats, c'est le titre, c'est Aziza.
Ça c'est Aziza, c'est un donc flûte à bec, accordéon et puis oud. C'est un...
Oud c'est un instrument à cordes.
C'est le luth, du nord de l'Afrique. Aziza c'est un morceau sacré égyptien.
Et voici ce que ça donne par Babel. Tu veux apporter une petite correction?
Oui, je vais apporter une petite correction. Je crois que je me suis trompé dans le fichier que je t'ai envoyé. Parce que je ne t'ai pas envoyé Aziza, du coup, je t'ai envoyé un morceau d'origine plutôt hongroise qui s'appelle Öskedar ou Turk in America, qui est un standard qu'on trouve dans plusieurs langues.
Et je crois même qu'on le trouve dans la variété.
Et on le trouve aussi dans la variété, c'est vraiment...
Parce que si je vous dis Bonéem Rasputin... On est tout à fait proche de la ligne mélodique et j'invite les auditeurs à faire un parallèle entre ce qu'on vient d'entendre et puis cette chanson-là, vous voyez comme quoi, là aussi, l'héritage peut aller très très loin et être, allez, je vais dire, adapté pour le moins, parce que quand on entend Rasputin par Bonéem, on pense qu'on est très loin de cette mélodie et pourtant, la continuité peut opérer là encore, bien sûr. On est toujours sur RDC 93.4 et 92.5. RDC. Tout à l'heure, on a évoqué Bernard Mathieu Furia Francese. Alors, on va essayer d'aller relativement vite. Qu'est-ce que c'est Furia Francese?
C'est un ensemble qui a été monté sous l'impulsion de Julien Hopic et de moi-même.
Alors Julien Hopic, rapidement, travaille à l'EDM lui aussi.
On va commencer par ses qualités de musicien.
Voilà.
Un pianiste, claveciniste, qu'on a de la chance d'avoir en Charente.
Ouais, hors pair.
Avec, hors pair, avec beaucoup de qualités diverses, dirais-je, dans de multis esthétiques.
Oui, et puis musicales et humaines.
Parce oui, que les et humaines. Je pense qu'il pourrait tout faire, si vous voulez, musicalement.
L'homme orchestre.
Voilà, et c'est aussi mon collègue et supérieur à l'EDM, mm-hmm. puisqu'il est conseiller aux études. Oui. Voilà.
Alors, Foyer Francese, c'est un orchestre de chambre, quelque part?
C'est un orchestre de chambre, complètement, où on a une formule où on est trois ou quatre pour les petits lieux, et une formule où on est plutôt entre 10 et 12 pour jouer les quatre saisons avec Amanda Favier, qui est une très grande violoniste que peut-être vous faites écouter de temps en temps, que nous avons la chance de connaître et qui apprécie de venir en Charente pour jouer avec nous. Tant qu'elle nous fait ce plaisir, nous, évidemment, on répond présent. D'ailleurs, je crois que cet hiver à Jarnac, mon papa leur dira, nous allons jouer les quatre saisons avec elle. Mm-hmm. Et puis cet été aussi à Écura. Donc l'ensemble, il est composé à la fois d'amis musiciens charentais,
oui.
et également d'amis musiciens qui sont plutôt du côté de Poitiers.
Donc voire, c'est bien, encore la rencontre, l'invitation.
Oui, une partie de l'équipe a été ramenée par Julien, une autre partie par moi. On peut dire les choses comme ça, puis on joue avec... c'est complètement en dehors de l'EDM, mais on joue avec Anne Ledroit et Martin Kesson.
Qui travaillent aussi l'un et l'autre à l'EDM.
Collègues, qui sont nos collègues directs également.
Ce lien, bien sûr. Alors, un concerto, qu'est-ce que c'est qu'un concerto? Un concerto, c'est une discussion entre un instrument et un groupe d'instruments, finalement. Ils se concertent. On a eu des concertos grosso avant le concerto, donc un groupe d'instruments et un orchestre. Et puis, quand il y a une soliste comme Amanda Favier, c'est quand même sympathique de l'entendre dans un concerto, non?
Ah bah oui.
Alors évidemment, Amanda, je ne sais pas si elle nous entend, si vous lui avez dit qu'on allait parler d'elle ce matin, mais elle est aussi invitée quand elle le pourra, si elle le peut et si elle le veut. Alors le concerto qu'on va entendre, en tout cas l'extrait, c'est la note de Vivaldi. Vivaldi, qui c'est? C'est un compositeur italien, comme son nom l'indique. C'est le prêtre catholique à la chevelure rousse qui le faisait surnommer il prete rosso, le prêtre roux. Et finalement, il paraît qu'il était plus connu à Venise sous le nom de prêtre roux que sous son propre nom. Bon, ceci dit, vous le disiez tout à l'heure, Bernard, et peut-être Mathieu aussi, qu'il a écrit plein de concertos, et dont un, ô combien célèbre, qui nous a servi à patienter au téléphone.
Enfin, quatre.
Oui, mais on entend souvent un au téléphone, et même, j'ai dit, un extrait d'un, du premier, les quatre saisons.
À peu près 600 concertos, pour une
fois. Oui, quand même. Et puis, Foyer Francese, c'est un nom bizarre, ça. Si je vous en 1515, vous allez me répondre. Une date parmi les plus connues, une année charnière de l'histoire de France, François Ier qui accède au trône et qui remporte la victoire lors d'une célèbre bataille, celle de Marignan. Et puis ce monarque emblématique de la Renaissance est le fil conducteur d'une création de l'ensemble musical Le Banquet du Roi. Et cette création s'intitule Foyer Francese. Et qu'est-ce que c'est que ce Foyer Francese? Comment ça se fait qu'on est en Charente? Il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'équivalent de Marignan en Charente. Mais c'est le nom que les Italiens ont donné aux troupes françaises durant les guerres d'Italie, la furie française qui faisait que les Français gagnaient. Mais là, pas question de bataille, et Foyer Francese, c'est la musique baroque, vous y parliez tout à l'heure, c'est celle donc de la fin du XVIIe, début XVIIIe, parce qu'il est utile de bien figer les frontières, en tout cas, elle est à l'honneur ici, et elle provient le plus souvent d'Allemagne, d'Italie ou de France. Et voici ce que ça donne avec Foyer Francese. Alors, qu'est-ce qu'il joue là? On sait dans cet extrait-là ou pas?
Dans cet extrait-là, il y a Julien au pic, au clavecin. Il y a Anne Ledroit, Martin Kesson, Thomas Thiebaud, Lorenz Vego et Julien Le Petit qui joue dans l'orchestre et puis moi qui fais la partie de flûte.
Mathieu Bernard, je vous suis vraiment reconnaissant de me permettre, grâce à vous, d'évoquer et d'inviter tous ces artistes. La note est Vivaldi, Foyer Francese. Thank you. donc là, on commence à avoir une orchestration plus fournie que ce qu'on a entendu jusque-là. On a plus de monde sur le scène, sur le plateau, n'est-ce pas? Et ça va se reproduire, vous disiez, à Jarnac et à Écura dans quelques temps, c'est ça, Bernard?
Oui, il y a la volonté de toujours diffuser la musique classique en milieu rural. Donc, on sait que les quatre saisons, c'est porteur et qu'on va remplir les...
Quelle que soit la saison.
Quelle que soit la saison. Et... ils l'ont déjà produite à Bassac, mais on va cet été, le 11 août, pour la première fois, accueillir toute la formation quasiment orchestrale maintenant de Furia Francese, et pour jouer les quatre saisons avec Amanda. Et,
Amanda Favier,
qui est une amie de longue date aussi, parce qu'on l'a accueillie...
Oui, il y a des amis, on a bien compris, on ne parle que d'amis.
En tant que soliste, au sein des Amis de la Musique, mais Tardoir Allegro aussi, elle est très connue en Charente pour avoir été en résidence au théâtre d'Angoulême sur un spectacle qui s'appelait « De Venise à Venise, itinéraire d'un violon gâté ». Elle a parcouru toutes les petites églises romanes de la Charente. Et maintenant, c'est devenu une adepte des Amis de la Musique et de Tardoir Allegro, où elle venait très régulièrement. Elle a rencontré donc Furia Francese et on lui doit d'avoir intégré cette formation et de la pousser aussi à son maximum pour la joie et l'émotion de tout le monde, y compris d'elle-même.
Je confirme.
Voilà, donc pour revenir au concert des quatre saisons, oui, il aura lieu le dimanche 11 août dans la salle des fêtes, parce que l'église des Curas sera trop petite pour accueillir la formation derrière.
Par une association.
Et par l'association Mémoire des Curas. Et nous la retrouverons aussi pour le concert de Noël le 15 décembre à l'auditorium Maurice Ravel de Jarnac.
On passe d'un an, merci beaucoup, et j'espère qu'évidemment le public suivra. J'essaierai d'y être, ce serait promis. On part d'un ensemble à un autre. Des airs de rien. Des, plus loin, airs de rien, et non pas des airs, comme lui aurait personne, de rien, encore que le jeu de mots peut le permettre. Alors, qui c'est? Qu'est-ce que c'est, des airs de rien? C'est quatre personnes qui s'immergent dans l'univers de la chanson et de la musique, c'est ça? Mathieu, c'est vous qui répondez.
Je vais présenter un peu mieux, un peu plus précisément que ça. Des airs de rien. Alors, des airs de rien, c'est un groupe dans lequel je suis rentré sur ma demande il y a longtemps, qui aujourd'hui est un groupe arrêté. C'est un groupe qui a pour fondement, pour origine, la composition et les textes de Alice Grolleron.
Alors, qui est cette Alice?
Alice est une jeune femme qui a fait ses études musicales à Angoulême, puis les a poursuivies à Toulouse, alors qu'elle finissait son conservatoire à Angoulême. Je les ai rencontrés, ce groupe-là, ils cherchaient un violoniste, et puis j'ai postulé. J'ai postulé parce que l'univers et la composition d'Alice, c'est une musicienne que moi je trouve extraordinaire. Pour ses idées, pour ça, elle fait tout, la musique et les textes, et puis derrière nous arrangeons.
Elle chante, elle joue du piano, c'est
alors, ça? Elle chante, elle joue du piano, elle fait de la percussion, et des fois elle fait les trois en même temps. C'est pour moi une musicienne assez hors du commun, avec laquelle je n'ai plus la chance de jouer régulièrement, puisque maintenant elle travaille à Toulouse, mais ça a été pendant quelques années un projet important. J'en profite pour rendre hommage à Paul Seitz, qui était notre batteur et qui est parti il y a très peu de temps. Voilà.
Et au départ, je crois que c'était un duo. Et ce duo devait s'appeler Denada. En tout cas, c'est Alice qui raconte ça.
Ah oui.
Et
oui.
Puis c'est devenu un quatuor. Et Denada, si on traduit, c'est de rien. Et finalement, comme il y avait de la musique, ils se sont dit qu'effectivement, des airs de rien, ça pouvait être un nom intéressant.
Moi, j'ai pas connu cette période parce que...
Ouais, vous n'étiez pas né.
Non. Eux, ils ont commencé ensemble. Ils étaient plus jeunes que moi, tous. Ils étaient,
c'est pour vous dire.
Ils étaient ensemble au collège. Je crois que c'est une histoire qui a commencé au collège, cette histoire de groupe de musique. Moi, je suis arrivé beaucoup plus tard, en fait.
Ah, le collège est responsable de bien des malheurs. Non, ici, c'est un bonheur, d'accord. Évidemment. Et nous allons l'entendre et le vérifier avec des airs de rien. Et on va entendre un souffle, je crois, c'est ça?
Oui.
Un souffle, des airs de rien.
Je m'en vais écouter le silence tant que le soleil est immense. Un souffle me parcourt, ouvre ma sauf s'est emparée de moi. Une mon nom fait chanter ma voix, parée de son. J'ai mis le doigt, me plonge dans l'eau.
Encore un autre style, on ouvre à autre chose, et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans votre parcours, Mathieu, je vais vous le dire, mais Bernard aussi, c'est cette absence de frontières. Et je crois vraiment, encore une fois, à cette forme de rencontre là, au travers de l'art et de la musique. C'est fondamental pour moi. Bernard, Mathieu Bernard, savez-vous que dans Donnez-nous vos notes, sur 93.4 et 92.5 pour la région de Saintes, on joue, on propose un jeu aux auditeurs. Et c'est maintenant le moment du jeu. Alors je sais, auditrices et auditeurs, que vous avez été très attentifs au déroulement de l'émission jusqu'à maintenant, dans laquelle nous avons le plaisir de recevoir le père et le fils, ou le fils et le père, Bernard et le père, c'est ça, le papa, et Mathieu et le fils. On joue en répondant à une question. Comment ça se passe? Je vais poser une question, et les auditrices et les auditeurs, évidemment, vont se précipiter sur leur téléphone pour composer le 05 45 95 09 87, le 05 45 95 09 87, et répondre à la question que je vais poser dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne un CD ou un DVD et une invitation à assister à une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes. 93.4, 92.5 sont les fréquences sur lesquelles cette émission est diffusée. Voici la question. Attention, auditrices, auditeurs, soyez attentives, soyez attentifs. Bernard Detor et Mathieu Detor, invités de l'émission de ce 22 février 2024, sont de la même famille. Ils possèdent donc un lien de parenté. Qui est Bernard Detor par rapport à Mathieu Detor? Qui est Mathieu Detor par rapport à Bernard Detor? L'une ou l'autre réponse sera acceptée. Précipitez-vous, c'est le 05 45 95 09 87. Et sachez, auditrices, auditeurs, que sur RDC, 100% des gagnants et des gagnantes ont tenter leur chance. Je répète la question, quel est le lien de parenté entre Mathieu et Bernard Detor, entre Bernard Detor et Mathieu Detor? 05 45 95 09 87, c'est le numéro du standard qu'il vous faut maintenant composer pour tenter votre chance. À bientôt. On continue avec un autre groupe. On arrive avec... Alors, je vais essayer de te prononcer, je vais dire Akan Kellen, c'est bien?
C'est ça.
Oh, j'ai été bon.
Ce qui veut dire « Venez danser maintenant en Roumanie ».
Ah, d'accord. Mm. J'avais une autre traduction. Ah non, c'est « Venez danser », oui, c'est ça. Et le titre, c'est « Ljubesk ».
Ljubesk.
Pardon, refaites.
Ljubesk.
Ah, Ljubesk, j'adore. Et c'est « Je t'adore », je crois.
Je t'aime, oui.
Ah, je t'adore. Je sais plus que je t'aime, je t'adore. Encore un groupe dans lequel vous jouez, Mathieu?
Encore un groupe dans lequel je jouais.
Ah, vous avez joué, d'accord.
Non, j'ai joué dedans pendant 4-5 ans. C'est un groupe dans lequel je suis rentré pour faire la remplace d'une violoniste qui partait vivre en Europe de l'Est. Et où j'ai dû monter sur le bateau très rapidement pour aligner 35 dates 3 mois après.
Ah, quand même.
Voilà, ouais. C'était très chouette. C'était que des airs Rome avec une super équipe, plutôt originaire du 87. C'est comme beaucoup d'ensembles. Au bout d'un moment, on se tourne vers d'autres aventures. Hein. Tous les projets ne sont pas immortels. Mais on a passé un bon moment. C'était une musique très festive, pour, essentiellement sur le répertoire danse, slave et tzigane. Et avec une sauce électrique et tout ça, où dedans, en fait, je faisais la flûte, le violon, du chant et puis des machines.
Ouais. Moi, je voudrais vous dire, Mathieu, vous êtes instrumentiste, certes, mais avec un S, alors.
Oui, alors c'est ce que souvent je dis à mes jeunes élèves.
Le vieux professeur qui parle là-dedans.
Oui, mais c'est que pour moi, ce qui est important, c'est pas qu'il soit flûtiste avec, ou ceci ou cela. Je suis pas fétichiste de l'instrument, en fait. J'ai pas une adoration absolue là-dessus. Je pense que c'est important de devenir musicien. Et j'apprécie de pouvoir toucher à tout. Je suis aussi formateur dans le son à l'école des métiers du cinéma d'animation, éventuellement compositeur. Ça m'a permis aussi d'aller vers plusieurs esthétiques, de le cultiver.
Tout l'appétit ça. Vient en mangeant, quelque
exactement.
Part. Et oui. Mmh. Et là, c'est un voyage encore, dont vous allez nous parler, que vous avez déjà évoqué. C'est un appel au voyage, à la fête, au partage.
Oui, bah c'est exactement ça. Et puis bon, c'est vrai que moi, sur le violon, j'avais, grâce à Katia, grâce à Dvorak, grâce à Martin et Petlik, j'avais une sorte de, comme je l'ai dit tout à l'heure, une culture des musiques tziganes, orientales, tout ça, qui était déjà quand même un peu...
Donc c'est le creuset, c'est la rencontre, là encore.
Oui, oui.
Et c'est entre mélodies traditionnelles et influences modernes.
Ouais.
Il y a 5 musiciens, je crois, au départ. Ils perpétuent ces musiciens où ils réinventent un répertoire des musiques tziganes avec leur propre composition aussi, avec un groove efficace. Alors le groove, c'est un mot qu'on rencontre souvent dans le domaine de la musique. Qu'est-ce que c'est le groove pour vous, Mathieu ?
Alors, je vais le dire, mais enfin, je vais dire ce que moi je pense, hein, comme définition. Oui. Mais je veux aussi revenir sur Akan Kellen, la fondatrice, qui est Cécile Douché, a une énorme importance, comme dans Désert de Rien, puisque c'est quelqu'un qui a passé 2 ans en Roumanie, qui parle rom, qui a ramené avec le saxophone et au chant, sa culture. Moi, je parle des influences que j'ai, mais elle a un peu plus que ça. Elle a un savoir-faire.
C'est aussi la rencontre de l'un et de l'autre qui fait la richesse de tous.
Tout à fait.
Évidemment. Alors le groove, qu'est-ce que c'est ?
Alors le groove,
comment vous le définissez-vous ?
Moi, je le définis comme le degré de ternarisation ou d'inégalité de la petite pulsation.
Oui,
c'est-à-dire que si je vous le fais, je vais essayer de ne pas m'approcher trop du micro ou de me mettre de travers, parce que sinon ça va être embêtant. Si on veut un groove droit, c'est-à-dire sans swing, sans groove, on va avoir quelque chose. Ok.
Oui.
Si jamais je veux quelque chose qui va être un peu ternarisé sur la petite pulse, je vais avoir. Oui, vous comprenez, c'est-à-dire
alors,
que
vous ne le voyez pas les auditeurs, mais il fait ça avec sa bouche et avec ses lèvres en percussion.
Si je vous le fais sur, par exemple, un rythme caractéristique, enfin un son une imitation de son caractéristique qui est celui de l'instrument de la Charleston sur la batterie, quand on a pas de groove entre, enfin pas de groove, c'est pas le mot, mais quand on a une petite pulsation qui est toute droite, ça fait. Quand on va avoir une pulsation qui va être un peu ternarisée, on va avoir. Et le degré d'acidité du swing, c'est-à-dire est-ce qu'il est très rapproché ou est-ce qu'il se rapproche de quelque chose d'égal, c'est ça le groove, c'est savoir à quel endroit tous les musiciens placent cette inégalité.
Donc
ou cette
c'est forcément avec un travail d'écoute de soi et des autres, et on est encore dans le partage quelque part.
Ah bah oui, oui.
Grâce au groupe, merci pour cette démonstration, c'était une grande première. Mathieu en percussionniste à bouche, tiens.
On utilise ce qu'on peut, ce qu'on a sur soi.
Ouais, grâce au groupe Akan, oui, mais il faut savoir l'utiliser encore. Grâce au groupe Akan Kellen, on entend et on ressent une chaleur dans ces mélodies orientales, la chaleur orientale, et puis une énergie presque survoltée des pays de l'Est. Et puis il y a une forme d'impertinence rock. Et moi, j'avoue que j'aime bien parce que c'est une Balkan nomad music. J'aime beaucoup ce terme. C'est là encore. Aller au-delà des frontières, par-delà les frontières. Et c'est un beau voyage que nous propose maintenant Akan Kellen avec Yubesh. On parle de voyage depuis le début, mais il y a différents moyens de voyager, dont le train et la LGV qui, depuis quelques années déjà, visite la Charente et s'arrête à Angoulême notamment. Alors, il paraît, vous le disiez Mathieu, que vous avez écrit des musiques aussi et vous continuez sûrement à composer.
Oui, j'en écris depuis très longtemps. Après, je dis ça sans prétention, mais j'invente.
Ouais.
Depuis longtemps.
Et on invente, parlons 2 secondes de la composition, qu'est-ce que ça veut dire inventer de la musique très vite ? Composer, qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être qu'un peintre pourrait répondre aussi, qu'est-ce que c'est composer un tableau ?
Je peux répondre. Alors, pour, je vais laisser la réponse à la peinture aussi.
Oui.
Sauf quand on a une source d'inspiration qui est suffisamment puissante pour mener à terme une œuvre, la composition, c'est une contrainte qui fait avancer. Et c'est souvent une rencontre et un partage avec quelqu'un d'autre. Quand c'est solitaire, ça veut dire qu'on a... Enfin, quand c'est solitaire, c'est qu'il y a quelque chose qui nous accompagne quand même. Qu'on a un objectif.
Oui, c'est deux entrées un petit peu différentes, mais complémentaires quelque part. Ouais.
Enfin, pour moi, en tout cas, je le vis comme ça. Je pense qu'il y a autant d'inventeurs que d'inventions. C'est-à-dire que peut-être que d'autres personnes trouvent d'autres chemins, qu'ils ont ce qu'on pourrait appeler la fulgurance ou des choses comme ça. Moi, je fonctionne très bien avec la contrainte, et depuis longtemps. Alors que ça soit dans le style de, que ça soit... Il y a des tas de contraintes différentes qui peuvent être...
dans l'espace, dans le temps.
Bah, un type d'orchestration, je veux entendre tel son, les affects de la musique qu'on demande. Alors, je parle comme ça parce qu'évidemment, ça fait maintenant une petite dizaine d'années que je suis compositeur et intervenant à l'École des métiers du cinéma d'animation. J'avais déjà travaillé avec l'audiovisuel avant. Et en fait, ça m'a toujours fourni du travail, la matière à inventer. Parce que c'est vrai que quand on part de rien, inventer quelque chose et tout. Bon, Léonard de Vinci avait bien eu des idées sur. Je me compare pas à Léonard de Vinci, je veux dire, pas du tout. Mais
pourquoi pas
mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours, il y a toujours un facteur d'observation qui nous entraîne.
Et alors, un compositeur qui compose, je vais prendre ce mot, un tableau, est-ce qu'il y a des points communs, Bernard?
Je ne sais pas, je n'ai pas trop approfondi, mais la composition en peinture, pour moi, c'est d'abord un cadrage. Ça, c'est l'espace.
On retrouve la contrainte.
Il faut que je choisisse mon cadrage. Et après...
Le cadrage de ce que vous voyez ou le cadrage sur lequel vous travaillez ou les deux?
Le cadrage que je choisis à partir d'un site. Après, que je délimite. Je délimite un espace.
Oui.
Et après... Je choisis le temps, en quelque sorte. Il n'est pas possible, parce que le temps, c'est la lumière pour moi. Et d'où vient la lumière? Quel temps? Quel moment du jour? Quel éclat je vais donner sur les pierres, sur la végétation, sur le... Donc, oui, le problème de l'espace et du temps, c'est pour moi une
avec
composition.
Avec cette lumière particulière que... Oui. Que beaucoup d'artistes décrivent quand ils le décrivent, quand ils
c'est un choix. Hein, je suis obligé. Ah oui, oui, mais il est. Ben, si on résume un peu, on a fait.
Oui,
je ne veux pas m'étendre sur ce qu'on a fait à Mémoire des Curas, sur Lucien Deschamps.
Lucien Deschamps.
Et Josué Gaboriau. Mais quand. Josué Gaboriau rencontre Paul Foy en Angleterre, parce qu'ils étaient tous
Paul
les deux.
Paul Foy, c'est aussi un artiste.
Peintre de la marine. Oui. Et c'est lui qui dit, Josué Gaboriau, il dit: mais viens donc en Charente, tu verras, la lumière est exceptionnelle. Alors, est-ce l'approche de la mer
Alors, à l'époque, il ne pouvait pas venir en TGV.
De la luminosité un peu maritime ou autre chose, mais c'est vrai qu'on a une lumière et des paysages très, très variés.
Et alors, ils ne pouvaient pas venir en TGV, je disais, mais quelques temps après, grâce à Mathieu, ils auraient pu être accompagnés de cette musique-là. Dans la tête quand on est dans le train, que sais-je encore. Il y a plein d'images qui peuvent naître de cette écoute-là, Mathieu, c'est ça?
Exactement. Bon, l'image de base, tu l'as citée sans le savoir. Je peux parler de la demande de cette
rapidement,
proposition.
Oui.
J'ai travaillé avec certains de vos collègues,
oui,
qui sont Zaï Zaï Radio,
et
notamment avec une... J'aime bien l'appeler reporter, même si je ne sais pas comme c'est comme
une
ça.
Reporteuse.
Léa Grange, qui m'a demandé de faire la musique sur son reportage, le Charente Express, les passagers du Charente Express, qui est un état des lieux depuis du train en Charente et de son vécu. C'est un état des lieux qui permet de voir au milieu de cet état des lieux... la sociabilité, entre autres, du travail à la campagne par le déplacement.
Mmh.
Ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est en podcast sur Zaïzaï, je vous conseille de l'écouter parce que c'est très intéressant sur le territoire.
Je vais avouer que je l'ai fait et c'est très intéressant.
Sur le territoire sur lequel on est tous les jours. Voilà, ça parle beaucoup de cette ligne qui en ce moment est très discutée, où il y a un trou dans la. Il y a un gros trou au premier étage de la maison. Quand même.
Toujours le pour et le contre, évidemment.
Bon.
De Donnez-nous vos notes, c'est avec Stéphane sur RDC.
Et c'est le moment de savoir, je me tourne vers Jean-Marc et vers Lisette qui est avec nous aussi ce matin, si on a un gagnant ou une gagnante. Alors là, je rappelle la question, quel est le degré de parenté entre Bernard de Thore et Mathieu de Thore, les invités de l'émission de ce jour, 22 février, l'émission de la série Donnez-nous vos notes sur RDC 93.4 et 92.5. Je vais leur laisser à l'un ou à l'autre donner la réponse à la question. Donc Bernard, par rapport à Mathieu, vous êtes
Le papa.
Et Mathieu, par rapport à Bernard, vous êtes
Son fils.
Alors c'est Isabelle de Brossac, Isabelle de Brossac qui vient de remporter ce CD ou ce DVD et qui sera invitée, quand elle le voudra, dans une émission de la série Donnez-nous vos notes. Merci à toutes les personnes évidemment qui ont joué et puis bravo à Isabelle qui a gagné et qui fera le voyage de Brossac à Angoulême en TGV, je ne suis pas sûr. Il fallait trouver une conclusion et je me suis dit, Bernard enseignant, Mathieu enseignant, est-ce qu'il y aurait un enregistrement de la classe de flûte, c'est comme ça qu'on dit je crois, de Mathieu de Thore? Eh bien oui, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé un groupe de chanteurs qui s'est produit il y a quelque temps, déjà, en l'église Saint-Médard de Brie, un groupe de flûtistes et un groupe de chanteurs sous la direction de Mathieu de Thore. On écoute tout de suite. La classe de flûte à bec, qu'est-ce que ça veut dire ça?
Alors comme je le disais tout à l'heure au tout départ de l'interview, quand je suis arrivé en Charente pour prendre l'emploi à l'école départementale de musique, la directrice de l'époque, dans mon entretien, a accepté l'idée que je puisse ouvrir quelques heures de flûte à bec. J'y étais rentré à plein temps en professeur de formation musicale. Et progressivement, jusqu'à 2018, grâce aussi à un collègue qui s'appelle Nicolas Michenot et qui est la personne qui dirigeait l'ensemble vocal de l'enregistrement d'avant. Moi, je ne dirigeais pas là. Hein. Je jouais avec mes flûtistes, c'est tout.
Un petit salut amical à Nicolas. Et voilà. Je peux lui dire que, s'il le souhaite, je l'attends.
Ah, il habite à Neuville du Poitou, il n'est plus en Charente.
Oui, mais enfin bon, allez, un bout de TGV.
Voilà, exactement. Aujourd'hui, cette classe de, je ne fais plus de FM à la forme, je ne donne plus de cours de formation musicale à l'EDM. Je n'ai que cette classe de flûte à bec et j'ai ouvert il y a pas longtemps quelques heures sur la musique assistée par ordinateur à l'intérieur de l'EDM, notamment sur les antennes de Montbron et de Chabanais. La classe de flûte à bec, c'est une classe où on joue plein d'instruments, de toutes les tailles et de plusieurs types. Parce que vous voulez que j'en parle un petit peu, c'est vrai que cet instrument, la flûte à conduit, pour l'appeler par son nom générique.
Redites-nous ça.
La flûte à conduit.
Qu'est-ce que c'est le conduit alors?
Eh ben, c'est un tube ouvert sans clé.
Ah, voilà. Sans clé, ça veut dire qu'il n'y a rien pour fermer ou...
Exactement.
D'accord, comme sur une clarinette par exemple où il y a des clés.
Voilà, donc là on a un système du tube qui se reproduit sur tous les instruments de la planète. Que la flûte ait 7, 6, 5 ou 4 trous. Le système va être le même.
Toutes les flûtes à travers le monde n'ont pas le même nombre de trous, rendez-vous compte. Ouais.
Enfin, il y a des généralités.
Oui.
Voilà. Mathieu, le nombre de doigts par main, par exemple.
Ouais, oui. Je vais vous interrompre ici parce que je sais que vous avez amené une flûte et je brûle d'envie de vous entendre en direct nous interpréter un air de votre choix. C'est quelle flûte?
Alors, celle-ci, c'est une flûte... sur le modèle Raffi, qui est le nom d'un facteur qu'on trouve à la Renaissance. Voilà. J'ai pris cette flûte-là parce que c'est une flûte très cylindrique qui est agréable pour jouer les musiques traditionnelles. Et là, je vais vous jouer un tube de la classe de flûte avec pendant quelques années. Excusez-moi, je fais des signes en même temps, là, j'ai ça. qui s'appelle Todicum ou Paloma, qui est un air grec, une chanson à la base que nous, on a joué en air traditionnel de danse avec toute la classe de flûte avec pendant quelques années. Donc si par hasard, j'ai un élève qui écoute, ça lui fera un petit clin.
Alors c'est aussi pour lui ou pour elle, hein, parce que
c'est exactement pour eux que j'ai pu prendre ce...
Alors en forme de conclusion voilà. À l'émission qui s'achève bientôt, Mathieu qui nous joue un extrait d'un air grec. Merci beaucoup, mille fois. Merci Mathieu et bravo. Merci Bernard, et puis bravo Bernard aussi, parce que les auditeurs et les auditrices ne l'ont pas vu, mais vous avez regardé votre fils jouer, et je vais aussi dire que vous avez joué avec lui. Si, si, soyez en persuadés. En vous accueillant ce matin, Bernard et Mathieu de Thor, j'ai eu le plaisir, les auditrices et les auditeurs aussi, je n'en doute pas, de recevoir deux hommes liés, professionnellement liés, deux enseignants qui, pour moi, illustrent parfaitement une citation célèbre de Jaurès, « On n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce l'on croit savoir, on enseigne et on ne peut enseigner que ce que l'on est. » Et puis deux enseignants liés, deux hommes liés familialement, et tout ça est le résultat d'une construction, une combinaison entre ce que l'on donne, ce que l'on reçoit, ce que l'on prend, ce que l'on jette. C'est sans doute vrai dans ce beau métier d'enseignant qui est ou qui a été le vôtre, Bernard et Mathieu, mais c'est aussi vrai de manière plus large. Ce matin, avec vous, grâce à vous, nous avons perçu et reçu des éléments de deux parcours humanistes, avec ce qui les rapproche, avec ce qui les éloigne aussi, avec ce qui entraîne ou ce qui permet leur croisement, leur rencontre. Bernard, il est des cadeaux transmis qu'on ne peut réfuter. Mathieu, il est des cadeaux reçus qu'on ne peut réfuter. L'un a donné, l'autre a reçu, et il continue à donner et à recevoir, l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Auriez-vous adopté le proverbe africain « tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin » ? Je ne peux pas en douter, les auditrices et les auditeurs non plus, évidemment. Je sais que vous l'appliquez dans la sphère familiale, mais aussi dans le cadre amical, associatif, artistique, musical, plastique. Nous en avons eu beaucoup de preuves ce matin. Alors Bernard, Mathieu, je n'ai désormais qu'une hâte, c'est celle de bénéficier à nouveau des actions que vous conduisez ici ou là. Ah si, j'ai une autre hâte, celle de vous recevoir dans quelques temps pour un nouveau numéro de la série Donnez-nous vos notes sur RDC 93.4 et 92.5. J'espère que notre temps partagé de cette matinée du 22 février 2024 vous a été des plus agréables. J'espère que ce fut le cas pour les auditrices et les auditeurs, que vous soyez des fidèles de l'émission ou que vous l'ayez découverte aujourd'hui. Merci à vous des nombreux messages de satisfaction envoyés après chaque émission de la série Donnez-nous vos notes. Merci beaucoup d'être à l'écoute chaque quatrième jeudi du mois, le 28 mars prochain, même lieu, même heure. C'est Aurélie Ligereau qui sera l'invité de Donnez-nous vos notes, qui est-elle ? Je crois qu'il sera question de chant lyrique, sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5. Autre parcours, bien sûr, autre histoire aussi, toujours la même passion, celle de la musique, du partage, de la rencontre, de l'échange. Jean-Marc, je veux une nouvelle fois te remercier du savoir-faire technique que tu sais déployer pour le meilleur écoute des auditrices et d'auditeurs, et pour mon aide, bien sûr, parce que tu sais que l'auditeur que je suis a besoin d'aide technique. Merci encore de rendre accessible le podcast de l'émission du jour sur le site de RDC, sans doute dès lundi prochain. Mathieu de Thor, Bernard de Thor, avec, pour vos parents, vos amis, vos associés, vos collègues, vos élèves et tous les autres, n'oubliez pas de nous faire encore et toujours voyager grâce à la musique, à la peinture aussi. C'est exactement ce que vous avez magnifiquement réussi à faire ce matin. N'oubliez jamais de donner vos notes, de nous offrir vos notes de musique autant que de peinture. Merci beaucoup et d'avance pour ça, Bernard et Mathieu. Au revoir auditrice, encore au revoir et bravo à Isabelle de Brossac. Au revoir Bernard, au revoir Mathieu.
Au revoir Stéphane, au revoir. Merci.
Au revoir Jean-Marc, et tu sais quoi, tu peux lancer le générique Jean-Marc, parce que sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5, donnez-nous vos notes, c'est fini. Donnez-nous vos notes, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à l'invité d'avoir accepté de nous donner ses notes. Merci à l'invité d'être venu nous donner ses notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. C'était Donnez-nous vos notes, une note, des notes. Donnez-nous des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui seulement. Chers auditeurs, chères auditrices, nous aurons bientôt le plaisir de recevoir un nouvel invité ou une nouvelle invitée, et pourquoi pas un groupe d'invités. Alors, à vous toutes, à vous tous, je donne rendez-vous pour la prochaine émission de Donnez-nous vos notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. Qui voudra bien nous donner ses notes? Merci à Jean-Marc pour la technique apportée, assurance de qualité tout au long de l'émission. Et surtout, merci à vous, auditrices et auditeurs, de Donnez-nous vos notes. À bientôt. Pour moi, ce sera encore une très grande joie. Alors oui, à bientôt. À bientôt pour une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes.